Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Tous les lundis, après les journaux de 8h et 18h.
Heureux de vous savoir à l'écoute de cette émission, encore un autre numéro de votre magazine Economia, espace de décryptage des sujets économiques. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à cet ultimatum lancé récemment par la Côte d'Ivoire et le Ghana aux industriels du chocolat. Ces deux plus grands producteurs mondiaux du cacao, après leur boycott de la réunion de la Fondation mondiale du cacao, haussent encore le ton et menacent les chocolatiers qui ne veulent pas payer le DRD. On en parle dans le dossier éco de cette émission. À ne pas oublier également les rubriques Le Lexique économique et les tendances de la bourse. Bienvenue et merci de votre fidélité.
Le lexique économique. Le lexique économique. Le DRD.
Le DRD, le différentiel du revenu décent, a été institué depuis la campagne 2020-2021 par la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui ont demandé aux industriels du chocolat de payer un différentiel de revenu décent de $400 sur chaque tonne de fèves vendues afin de mieux rémunérer leurs planteurs.
Le différentiel d'origine.
Le différentiel d'origine est une prime de référence du prix du cacao sur le marché à terme concernant chaque pays. C'est en quelque sorte une cotation attribuée au cacao des pays producteurs, ce qui permet d'avoir des primes supplémentaires, et cela en fonction de l'origine du cacao sur le marché à Londres.
Le programme de durabilité du cacao.
C'est un projet qui vise à réduire la vulnérabilité des exploitations cacaoyères, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana, en identifiant des leviers permettant une durabilité agronomique du secteur du cacao, tout en préservant l'environnement. Et c'est un projet qui est financé par l'Union européenne.
Le dossier éco.
Non-paiement du DRD, le différentiel du revenu décent par les industriels du chocolat, la Côte d'Ivoire et le Ghana lancent un ultimatum à ceux-ci pour qu'ils s'exécutent, sinon passé la date du 20 novembre 2022, le Conseil du Café Cacao et le Cocoa Board, les deux structures étatiques gérant le secteur du cacao dans ces deux pays, menacent de saisir leur gouvernement afin que ceux-ci prennent des mesures allant jusqu'à la suspension de tous les programmes de durabilité et à l'interdiction d'accès aux plantations pour effectuer des prévisions de récolte. Comment comprendre cette décision et en quoi elle peut être efficace dans ce bras de fer entre ces pays, les deux plus grands producteurs mondiaux du cacao et les industriels du chocolat? Pour répondre à ces questions, Jean-Claude Comé reçoit Ousmane Gbané, économiste et banquier d'affaires, spécialiste des questions du négoce. Suivons l'entretien.
Monsieur Ousmane Gbané, bonjour.
Bonjour monsieur.
Le conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire et la Cocoa Board du Ghana sont très remontés contre l'industrie du cacao. Et cela pour le non-respect du paiement du différentiel de revenus décent qu'on appelle le DRD. Comment vous réagissez en tant que banquier d'affaires?
Ben écoutez, il fallait s'attendre, hein, moi je dirais, parce que d'abord, les compagnies qu'on accuse, donc les multinationales de chocolat, ont des investisseurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'ils doivent faire chaque fois, à la fin de chaque trimestre, pour qu'ils présentent des résultats. Ça veut dire qu'il faut couper le coût au maximum possible. Et alors, le DRD, c'est quelque chose qui vient s'ajouter à ce qu'ils payent déjà. Donc, c'est déjà très, très difficile pour expliquer à leurs investisseurs. Je ne cherche pas à les défendre, mais il fallait s'attendre à ça. Ils refusent de payer parce que ce sera très, très difficile à expliquer aux investisseurs de ces entreprises.
Mais on peut se poser la question, ils avaient quand même pris des engagements, hein, justement, on se rappelle, avec ces deux pays, dans le cadre de l'initiative cacao que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont mis en place. Pourquoi revenir aujourd'hui sur cette parole donnée?
Bon, moi, je ne sais pas si c'est revenir sur la parole. Je crois que les engagements qui avaient été pris au début, il y a eu quand même des décaissements. Et moi, je pense plutôt que le problème qui se pose, c'est la pérennisation. C'est-à-dire que est-ce qu'ils sont prêts à payer chaque trimestre? Et donc, un retrait de leurs résultats pour payer. Moi, je pense que c'est plutôt ça qui coince. Mm-hmm. C'est-à-dire que les investisseurs ne sont pas prêts à ce que chaque trimestre, quand on doit publier leurs résultats financiers, qu'on retire de l'argent pour donner les producteurs.
Alors, justement, ces deux pays avaient donné le ton de leur mécontentement. On se rappelle, il y a eu une réunion dans le mois d'octobre de la Fondation mondiale du cacao où ces deux pays ont boycotté cette rencontre déjà pour envoyer un premier signal. Est-ce que pour vous, c'est une bonne stratégie d'être absent où on prend les décisions?
Bon, d'abord, le World Cocoa Foundation, tout le monde fait partie. Et donc, moi, je pense que, personnellement, je pense pas que ce soit une bonne décision parce qu'il faut toujours rester, quelles que soient les différences, il faut toujours ouvrir un canal de discussion. Ceci étant, quand même, il y a environ 100 milliards de dollars par an de revenus qui sortent du cacao. Et sur ces 100 milliards de dollars, il n'y a que 6% qui reviennent aux producteurs, je dirais. Donc vraiment, c'est très, très peu. Mais les deux gouvernements, Ghana, Côte d'Ivoire, ont une part des responsabilités. Dans la mesure où, quand vous fixez déjà un prix pour la campagne, voilà ce que nous, on va vous payer en tant qu'entrepreneur. Là, déjà, vous créez un problème. Et moi, je pense que à leur niveau aussi, il va falloir dévisser ce système qui me paraît un peu trop archaïque et essayer peut-être de rentrer dans le système eux-mêmes.
Termes stratégiques, comment la Côte d'Ivoire peut peser dans la balance ou les deux pays?
Alors, c'est très simple. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle produit 40% si les chiffres sont bons. 40%, le Ghana 20%, ça fait 60%. Donc, vous avez des compagnies qui sont aujourd'hui sur le marché financier, donc ce sont des compagnies publiques. Donc il va falloir chercher une stratégie très pragmatique en partant sur les marchés financiers et en faisant ce qu'on appelle dans le jargon financier un OPA sur certaines de ces compagnies-là, dont Nestlé par exemple est vendu sur le marché à New York. La Côte d'Ivoire peut mobiliser des fonds, créer un fonds souverain et ce fonds souverain va prendre des parts de Nestlé et s'asseoir sur la table de Nestlé quand il y a des conseils d'administration. Et ça peut changer les choses parce que quand vous êtes assis sur la table de conseil d'administration, ce sont les administrateurs qui décident ce que la compagnie doit faire. Aujourd'hui, on a cette opportunité de faire un OPA. On a cette opportunité, ne serait-ce qu'aujourd'hui, avec les lois de New York Stock Exchange, si vous avez ne serait-ce que 1,2%, vous pouvez avoir beaucoup à dire dans le conseil d'administration, vous avez déjà une place dans le conseil d'administration, vous asseyez, vos décisions sont prises en compte.
Donc il faut peser dans la balance en étant donc chez les décideurs, ceux qui achètent même le cacao en quelque sorte.
Voilà, c'est ça. Enfin, c'est une stratégie parmi tant d'autres, mais je pense qu'aujourd'hui, ces industriels sont très très puissants, ils ont des lobbies très très puissants à Washington, en Europe, à l'Union européenne, à Bruxelles. Donc vraiment, moi, la stratégie qui me semble aujourd'hui la plus plausible, c'est de faire un OPA.
Alors, si on vous écoute, est-ce à dire que c'était une bataille perdue d'avance, ce bras de fer engagé entre la Côte d'Ivoire et le Ghana et en face les chocolatiers?
Je ne dirais pas que c'est une bataille perdue d'avance, mais vous savez, on peut gagner une bataille, ne pas gagner la guerre. Moralement, ce que ces entreprises sont en train de faire n'est pas normal. Donc, à un moment donné, elles vont à un moment donné s'aligner et faire en sorte que leurs investisseurs comprennent qu'il faut soutenir l'industrie, qu'il faut enlever ces producteurs qui vivent dans la misère de cette situation. Donc, ils vont faire un geste à un moment donné. Mais est-ce que franchement, c'est ça qui va faire sortir, c'est ça qui va faire développer l'industrie, c'est ça qui va faire que nos producteurs vont pouvoir vraiment avoir des revenus vraiment, vraiment décents pour pouvoir mieux vivre comme les industriels vivent dans les pays développés.
Dans le sens de l'amélioration justement des conditions de vie de ces producteurs, il est suggéré par certains observateurs une transformation de nos productions aussi et viser d'autres marchés. Parce que quand on regarde, ce sont des marchés occidentaux essentiellement pour ces deux pays. Transformer d'abord et viser d'autres marchés, est-ce que pour vous ça peut être aussi des clés justement en termes d'amélioration des conditions de vie des producteurs?
Absolument, absolument. Mais ce qu'il faudrait faire attention avec ça aussi, c'est que vous produisez pour vous-même d'abord ou bien vous produisez pour ces mêmes pays développés. Donc vous rentrez encore dans une autre guerre. Moi, j'étais à Singapour où la CIA a introduit du chocolat sans cacao. Et j'étais très, très surpris. Il n'y avait pas de cacao dedans. Alors là, pas du tout, mais le goût, il est extraordinaire. Du chocolat blanc, du chocolat noir et du chocolat au lait. Donc, est-ce qu'on veut rentrer dans une bataille où c'est eux qui consomment? Nous, parce que ici, moi, depuis que je suis revenu en Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu une politique, une stratégie ivoirienne où on dit aux étudiants, aux élèves, dès le bas âge, de commencer à nourrir leur palais de la connaissance du chocolat. Vous allez demander même à des producteurs de cacao, ils vous diront qu'ils n'ont jamais goûté à une tablette de chocolat. Donc, il faut, quand on veut avoir ce genre de stratégie de production de masse, de transformation de masse, il faudrait qu'on commence à consommer nous-mêmes. Mmh. On essaie d'inculquer cette consommation de nos produits nous-mêmes, parce que si, après, ça devient une bataille, que les pays d'où proviennent ces industriels refusent de consommer votre cacao, alors vous faites quoi? Ceux qui consomment, vous allez produire, vous allez faire la transformation pour qui? Mais heureusement que, bon, on est en train de maintenant créer la zone de libre-échange.
Justement, j'allais venir à la ZLECAF, voilà, une des solutions, selon vous.
Voilà, mais toujours est-il que même la zone de libre-échange en Afrique, il faudrait que nous, on commence déjà à consommer nos produits. C'est-à-dire, oui, c'est toujours, quand vous êtes dans une économie où vous avez, les Américains disent, l'avantage comparatif d'un produit, vous concentrez sur ce produit toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire production, transformation, consommation. Maintenant, ce qui reste de votre consommation, vous vendez.
Alors, mais en termes stratégiques, hein, pour parler des pays producteurs, pour l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana, il y a aussi le Nigeria et le Cameroun qui sont intéressés. Est-ce que ces quatre pays, en se mettant ensemble, ou même en réussissant à faire un genre de cartel, un conglomérat de producteurs, on ne pourrait pas peser dans la balance aussi quelque part lorsqu'on décide de ne pas vendre?
Je suis tout à fait d'accord que, quelle que soit l'action qu'on va faire, comme certaines personnes l'appellent l'OPEP du cacao, ça va marcher. Mais est-ce que ça va marcher durablement? Aujourd'hui, quand on fait une plaquette de chocolat, comment ça se passe? La plaquette de chocolat a des pourcentages, c'est-à-dire que la composition, la recette, il y a des pourcentages de cacao des différentes zones. Vous comprenez?
Oui.
Donc, je peux avoir 60% de la production mondiale de cacao, mais le menu du chocolat de Nestlé va demander peut-être qu'il y ait simplement 2% du cacao ivoirien, 10% du cacao malaisien, 20% du cacao indonésien. Et donc, voilà, que vous ayez un cartel, moi, je ne crois pas que de façon durable, ça puisse vous faire sortir de ce problème. Il faut aller plus à l'avant. Nous avons l'avantage comparatif par rapport à tous les autres pays dans le monde entier. Quand il s'agit du cacao, nous devons y être présents sur toute la chaîne de valeur, de la production, la transformation et la consommation.
Les différents pays producteurs doivent, comme vous l'avez dit, penser à l'avenir justement en opérant en amont comme en aval, c'est cela?
C'est ça.
Alors pour terminer, M. Ousmane Gbané, quels sont vos conseils justement en termes d'attitude à avoir aujourd'hui par rapport à ce bras de fer-là? Dans l'immédiat, qu'est-ce que le conseil Café Cacao et la Coco Board peuvent faire pour renouer contact?
Je pense que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas mal. En tout cas parce que c'est déjà deux pays et chaque pays a ses intérêts. Donc il faut comprendre ça, vous ne pouvez pas faire plus que ça. À un moment donné, si l'intérêt de la Côte d'Ivoire n'est pas lié avec l'intérêt du Ghana, la Côte d'Ivoire va se retirer. Donc, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, moi, je pense qu'il faut continuer. Il faut aller sur la table de négociation. Il faut discuter avec eux. Il faut aller vers les fonds d'investissement durable. Eux, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de voix parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils investissent beaucoup d'argent dans ces compagnies-là. Et eux, qu'ils s'assoient sur la table des négociations, la table du conseil d'administration de Nestlé, de Hershey et de toutes ces compagnies-là. Et quand eux, ils décident de retirer leur argent, ces entreprises, ces industriels-là réfléchissent. Donc, il faut les rapprocher, ces fonds-là, d'investissement durable, pour leur expliquer ce qui se passe, pour qu'ils prennent eux aussi leur part dans ce combat. Parce qu'après, ça fait partie du combat de la production durable et de la consommation durable.
En tout cas, Monsieur Ousmane Gbané, merci pour tous ces éclairages sur ces stratégies à adopter par ces pays producteurs du cacao.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Tendance de la bourse.
Monsieur Kouaou, bonjour.
Bonjour Monsieur Komé, bonjour à tous les auditeurs.
Le 6 août, le chef de l'État, dans son discours à la Nation, a donné de bonnes nouvelles pour les fonctionnaires. C'est une augmentation qui partirait de 60 000 et un peu plus. Aujourd'hui, on en parle. Justement, en tant qu'économiste, comment vous appréciez cette nouvelle?
Déjà, c'est une bonne nouvelle parce que, comme on le disait en Côte d'Ivoire, on voyait l'argent travailler, mais l'argent nous voyait et l'argent continuait son chemin. Donc, Dieu merci. En termes de politique, quand même, je dirais que c'est intéressant. Et ça peut permettre de dire, travaillons pendant 5 ans, travaillons vraiment pendant 5 ans, pas de marche, pas de casse, et 5 ans après, on fait bouger telle chose. Donc ça peut être maintenant un peu comme dans la culture de la Côte d'Ivoire, que de laisser quelqu'un travailler pendant 5 ans et de l'attendre pour qu'il fasse bouger ces choses. Donc ça, moi j'apprécie beaucoup. Maintenant on va parler du fond, comment gérer ça.
Justement du fond, dans l'approche, le chef de l'État s'est intéressé à l'allocation familiale, aux primes de transport, le logement. Est-ce que aussi on peut considérer cela comme une augmentation de salaire?
Oui, au final, les gens, quel que soit la rubrique de leur salaire qui est touchée, c'est le total et puis ce qu'ils reçoivent là qui regarde. Donc, même si l'augmentation passe par l'allocation X, l'allocation Y, au final, ça ressort dans le net. Et nous, on va travailler avec ce net-là. On va prendre des montants, bien sûr, moyens là, pour voir comment on peut approcher la question d'une bonne gestion. Parce que on l'a dit tout à l'heure, ça ne va pas revenir l'année prochaine. Ça ne va pas revenir dans 2 ans. Donc, si on est vraiment un peu prudent, on doit savoir que ce qui a été touché cette année-là, c'est peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans qu'un président viendra encore faire bouger l'allocation familiale ou l'indemnité de logement. Donc, il faudrait surtout pour les fonctionnaires qui n'ont pas des avancées significatives dans le privé, tu peux démissionner, ton salaire double. Ce n'est pas le cas d'un fonctionnaire. Être vraiment appliqué quand il y a ce type d'augmentation-là pour placer déjà des choses.
Vous avez dit un mot, quelle attitude avoir lorsque on a cette augmentation? Est-ce que c'est une source supplémentaire de dépenses? Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus?
Déjà, je vais vous surprendre, mais je suis pas pour faire comme si c'est pas arrivé et puis on va mettre ça sur un compte. Généralement, ça dure pas, ce type de comportement-là. Généralement, ça dure pas et après, ça rentre dans divers et variés et finalement, on perd l'effet de la hausse. Il faudrait apprécier sainement les réalités du moment et aussi les projets imprévus. Donc, moi, je propose une allocation en 3 qui va distinguer les besoins du présent, les projets et les imprévus non couverts. Donc, c'est sur ces 3 points-là qu'on va travailler. L'augmentation a été faite pour de bonnes raisons. C'est vrai qu'il y avait depuis longtemps certaines choses qui n'avaient pas bougé, mais la vie, le coût de la vie aujourd'hui n'a rien à voir avec il y a 5, il y a 10 ans. Donc, ce serait une erreur d'appréhender les choses en termes de « je fais comme ça, il n'est pas là », mais tu continues d'acheter plus cher des choses et tu les achetais même des fois à crédit. Donc, il faut peut-être accepter de mettre une partie de la somme dans les besoins du présent. Dans le présent, tu as des besoins qui n'étaient pas forcément bien couverts à cause justement de toutes les tensions qu'il y a sur les prix. Une partie de cet argent doit couvrir le présent. Donc, quand vous faites votre budget présente des postes de consommation. Moi, j'ai un budget. Mon carburant, par exemple, faisait 60 000. Avec tout ce qui se passe là, je suis à 80 000. Donc, je vois la hausse. Et la hausse, je la sentais passer sur d'autres points. Si j'ai une augmentation, je peux allouer un peu plus d'argent à la rubrique transport, dans mon cas carburant, pour pouvoir justement coller à la réalité. Pareil pour la popote. Donc, chacun a un budget. Donc, ceux qui ne l'ont pas, entre parenthèses, c'est le moment de le faire. Donc, toutes les rubriques de consommation sont identifiées et à chaque rubrique correspond un montant ou une enveloppe. Dans le cas de ceux qui utilisent la technique des enveloppes. Donc, il s'agit, dans l'augmentation générale, par exemple, c'est 80 000 francs, de prendre une partie, par exemple 30 000 francs, et d'ajuster les poches qui ont été touchées par l'inflation ou même les poches sur lesquelles on pense qu'on peut avoir besoin de plus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les projets. Il y avait effectivement des projets que vous aviez que vous ne pouviez pas financer à cause du niveau de revenu. C'est l'occasion ici de placer de l'argent sur ces projets-là. On va parler, par exemple, de l'éducation des enfants. Comme je l'ai dit souvent dans les émissions, moi, la bourse finance les études de mes enfants. Je n'utilise pas mon salaire pour ça. Mais beaucoup de gens m'ont dit, mais moi, je n'ai pas pu faire ça. Donc, tout le monde n'a pas eu, entre guillemets, la chance de faire ça. Donc, les enfants se sont retrouvés en charge directe sur le salaire. Bon, vous faites avec. Mais ce que je dis, c'est que le primaire, le secondaire, on peut faire avec. Mais le supérieur, c'est comme les enfants disent, c'est un autre level. Si vous voulez regarder réellement une étude et des études supérieures pour vos enfants dans des écoles de qualité, vous êtes en millions sur plusieurs années, sur plusieurs enfants. Donc si tu n'as pas pu traiter le primaire, le secondaire comme moi, tu peux toujours traiter le supérieur. Donc par exemple, les 80 000 francs, 30 000 francs iraient dans les projets, par exemple, un compte pour les études supérieures des enfants. L'argent de ce compte-là pourrait être investi en bourse, pourrait être sur un contrat d'assurance, mais il faut s'attaquer à ces questions-là. Nous, les Africains, on a un vrai problème de planification. Quand vous commencez à travailler, il y a trois éléments certains que vous devez traiter. Vous devez traiter votre logement, parce que vous ne pouvez pas passer votre temps à louer des maisons. Vous devez traiter les enfants, parce qu'ils vont arriver, et vous devez traiter la retraite. Donc, dans une planification financière, c'est d'être capable, à différentes étapes de sa vie, d'allouer des sommes pour ça. Donc, si, gloire à Dieu, une augmentation est arrivée, et qu'il y avait une de ces questions-là qui n'était pas couverte, c'est l'occasion de prendre une partie pour commencer à couvrir la question. Parce que à coup sûr, vous irez à la retraite, à coup sûr, vos enfants iront au supérieur, et vous aimerez bien avoir une maison. Donc, autant commencer à traiter ça.
Monsieur Kouaou, merci infiniment pour tous ces conseils.
Merci beaucoup.
Allez, on se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Au revoir.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Tous les lundis, après les journaux de 8h et 18h.